James Woody, bonjour.
Bonjour.
Vous voici à nouveau sur nos antennes et nous vous en remercions, James Woody.
Mais écoutez, c'est avec grand plaisir.
Vous êtes le pasteur, mais ai-je besoin de le rappeler, de l'Église protestante unie de Montpellier Centre-Ville,
oui.
Autrement appelée Maguelone, et président du mouvement Évangile et Liberté. Vous êtes venu il y a peu nous parler de votre premier livre publié aux éditions Actes Sud, Grain de sel. Émission toujours disponible, dois-je le rappeler, sur le site fmplus.org. Aujourd'hui, vivre la liberté aux éditions du CERF. Alors passez-vous, James Woody, de votre statut de pasteur à celui d'écrivain ?
Pas du tout. Ce livre qui vient de sortir au CERF est au contraire un écrit très pastoral, je trouve. J'essaie de m'appuyer d'abord sur les rencontres que j'ai pu faire, sur ma pratique aussi de lecteur du texte biblique et même de prédicateur. Et j'ai essayé de faire un livre qui soit finalement à la croisée de l'entretien pastoral, de la prédication et puis aussi, je dirais, du regard prophétique que l'on peut porter sur la société actuellement, et je me suis limité à la société française que je connais, hein, ça n'a pas une prétention internationale.
Et pourtant, James Woody, je me suis demandé, moi, à quel type de livre je tenais entre les mains. Était-ce un livre de théologie biblique? Et vous nous en donnez tous les repères, hein, avec des citations bibliques, en nous disant, par exemple, « Le souffle de la liberté se répand au travers des textes bibliques qui ont gardé la trace de son passage. » Ou bien, me suis-je demandé aussi, est-ce un livre de développement personnel qu'on voit tant ? Et là aussi, nous pourrions relever des passages qui iraient dans ce sens, comme celui-ci, par exemple. Encore faut-il se libérer de ce qui nous retient, de ce qui fait obstacle à une existence de haute qualité. Alors, qu'a donc écrit le pasteur James Woody, finalement ? Vous nous avez donné deux versions, moi j'en ai encore une troisième.
Oui, certainement. J'ai même essayé certainement de faire un plaidoyer, une sorte d'éloge. Je pense essayer de me faire plaisir aussi en écrivant. Je pense que la théologie n'est pas simplement une affaire de spéculation. La théologie est pratique. La théologie, c'est ce qui permet de croiser différentes disciplines et d'approcher au plus près du réel. Et donc, vous avez tout à fait raison. Il y a une traversée de nombreux textes bibliques que j'essayais de faire de façon aussi sérieuse que possible avec mes outils académiques. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce que vous appelez le développement personnel, qu'on pourrait aussi appeler l'épanouissement. On pourrait appeler ça de l'édification avec un terme religieux. Et c'est vrai que cela essaie de participer à une sorte de béatitude au sens biblique du terme. Hein. C'est un en avant, un état aussi satisfaisant que possible. Parce qu'il me semble que le texte biblique n'est pas d'abord là pour proposer une doctrine, mais pour proposer un rapport à la vie. Et c'est ce que j'ai essayé de faire transpirer dans ce livre en faisant quelque chose d'assez vivant autant que possible. Et il y a effectivement une sorte de pédagogie qui se met en place, aussi bien pour devenir un peu mieux lecteur de la Bible, et j'ai essayé de montrer que la Bible avait des choses à nous dire sur notre vie quotidienne et pas simplement sur notre dimanche matin, et en même temps essayer de faire en sorte que cette vie quotidienne puisse prendre une autre ampleur grâce à ce souffle dont la Bible est témoin. Il ne s'agit pas de mettre de la Bible à chaque coin de notre agenda, il s'agit de se rappeler que la Bible elle-même nous renvoie à une qualité d'existence.
Le premier chapitre de ce livre, « Vivre la liberté », est une lecture des 10 commandements. Rapide certes, hein, en une trentaine de pages, mais vous en écrivez quelques notules sur chacun des commandements, lus sous l'angle de la relation à l'autre. Alors vous nous dites « L'altérité nous met à distance de nous-mêmes ». Alors quel rapport faites-vous entre la lecture de ces 10 commandements et la relation à l'autre ? Et cette mise à distance de nous-mêmes, comment est-ce que vous liez ces deux concepts, ces deux aspects ?
Eh bien déjà, ces 10 paroles que l'on trouve en Exode 20, qui constituent ce qu'on appelle classiquement les 10 commandements, sont 10 paroles que nous n'avons pas choisies. En ce sens, elles sont porteuses d'une altérité. Ensuite, ce sont des paroles qui renvoient à Dieu et renvoient à l'autre, c'est-à-dire au prochain, ou à son conjoint, ou à sa servante, ou à ses biens matériels. Et donc, chaque parole est une manière de prendre conscience qu'il y a autre chose que nous dans notre propre vie. Donc, il y a bien une mise à distance en en ce sens que nous n'avons pas décidé quelles seraient les paroles les plus structurantes. Ensuite, il y a une mise à distance parce qu'il y a le visage de l'autre qui est en train de se dessiner et que cela élargit mon horizon et me fait prendre conscience que je vis des interactions. Vous voyez, c'est important parce qu'on pourrait se dire que vivre la liberté, c'est finalement faire table rase de tout. Vous voyez, plus aucun lien, plus aucune contrainte, plus aucune attache. Non, c'est le fait de prendre conscience de ce qui nous environne. Et l'altérité, par exemple, je parle de Moïse qui est dans ce désert face au buisson ardent, il prend conscience d'une situation qui jusque-là lui échappait. Donc l'altérité nous permet de prendre conscience, c'est un peu le sens de la prière aussi, et à partir de là, je peux mieux me positionner dans la vie. Et je peux surtout faire les choix pour donner les impulsions que je souhaite.
Est-ce que vous parleriez ici de cette notion de responsabilité qu'on a envie d'associer à cette notion de liberté?
Oui, parce qu'il y a finalement une sorte d'appel. L'altérité m'appelle, l'altérité m'oblige dans une certaine mesure. Le regard de l'autre attire mon attention sur des situations, et la responsabilité, c'est le fait de répondre à ces appels, de répondre à ces défis que je découvre. Et précisément, l'histoire du buisson ardent avec Moïse, c'est l'histoire de la responsabilisation de Moïse, qui considère qu'il n'a rien à faire dans cette histoire, et finalement, il découvre que, bien sûr, il a à apporter son génie propre, son sens des responsabilités, justement, pour apporter plus de liberté à ce peuple hébreu qui est réduit en esclavage.
Alors après cet ancrage dans la loi, dans la Torah, vous identifiez les objets dont il faut se détacher, les entraves, que vous appelez les entraves, ce qui nous retient. Alors vous en identifiez quatre, le déterminisme, la peur, les épreuves, le conformisme et le pouvoir. Ça doit faire cinq, ça. Mais
on peut...
conformisme et pouvoir, non, enfin bon.
Non, il y a le conformisme d'une part, et puis il y a le pouvoir et les institutions
part.
D'autre part.
C'est ça, mais déterminisme, peur, la peur et les épreuves. Vous mettez ensemble la peur et les épreuves. Alors vous nous dites, je vais m'intéresser à l'un d'entre eux. Nous n'aurons pas le temps de parler des trois autres. Est-il un mal plus grand que le conformisme? Et vous continuez en disant « Bien des chrétiens sont terriblement conformistes en matière de religion ». Alors comment est-ce que les chrétiens sont-ils conformistes, selon vous ?
La première chose, c'est la ritualité. Moi, je pense que les rites sont essentiels à la vie pour organiser les passages, pour changer d'un état à l'autre, pour grandir. On parlait tout à l'heure de développement personnel, les rites permettent de nous accompagner dans nos différentes évolutions. En revanche, la ritualité, c'est la répétition inlassable des mêmes gestes, des mêmes paroles, qui nous donnent la certitude d'être quelqu'un. Or, nous ne sommes pas quelqu'un parce que nous restons celui que nous avons été, nous sommes quelqu'un parce que nous devenons celui que nous sommes, hein, pour le dire avec André Gide. Et donc, il y a un conformisme chrétien qui consiste à répéter les mêmes paroles. On peut penser par exemple à Marthe et Marie qui, au moment où Lazare est mort dans l'évangile selon Jean au chapitre 11, sont capables de réciter les bonnes phrases de catéchisme, donc c'est conforme. Rien à redire, bonne note à la faculté de théologie, mais elles ne savent pas qu'en faire. Et en fait, ce ne sont pas des paroles de vie, ce sont des paroles d'enfermement. Et c'est la raison pour laquelle on dit que Lazare est mort. En fait, il est mort étouffé dans quelque chose qui se répète de manière implacable. Et la vie, elle, a besoin de nouveautés. La vie a besoin de renouvellement. Elle fait craquer tous les vernis. Et quand on s'enferme dans le vernis religieux, on est dans sa propre sépulture, dans une certaine mesure.
Musique. avec Mike Jagger, mais aussi avec le pasteur James Woody pour son nouveau livre « Vivre la liberté » aux éditions du Cerf. Alors nous parcourons ensemble, James Woody, ce nouvel ouvrage que vous venez de publier. On a identifié les quatre liens finalement qui nous empêchent d'accéder à cette liberté. Et vous nous donnez ensuite plusieurs pistes pour être en aptitude à la liberté. La créativité, la confiance, la parole. Et parmi ces pistes, il y en a une qui prévaut, d'après ce que je comprends, sur les autres, c'est l'amour. Et je vous cite « Le bonheur n'étant pas un état, mais une démarche comme l'atteste le caractère nomade du peuple de Dieu, il s'agit de prolonger l'impulsion qui donne le départ. L'amour accomplit cela. » Alors, il y a une chose que je n'ai pas trouvée dans votre livre, peut-être l'ai-je mal lu, pas suffisamment avec d'attention. Je me suis demandé, la difficulté quand même, c'est comment est-ce qu'on accède à ce sentiment d'amour ?
Alors, je comprends que vous ne l'ayez pas trouvé parce que dans la perspective biblique telle que je la comprends, l'amour ne relève pas du sentiment. J'essaie de distinguer trois manières d'aborder l'amour avec les termes grecs eros, philia et agapé. L'eros, c'est le fait de désirer ce qui nous fait cruellement défaut et qui se trouve chez l'autre. La philia, c'est l'amitié, c'est l'échange de bons procédés. Et l'agapé, c'est le fait de donner à l'autre ce dont il a besoin pour s'épanouir. Et il me semble que cela dit bien que c'est pas de l'ordre du sentiment amoureux que les choses se passent, c'est de l'ordre du soin de l'autre. Aimer, c'est prendre soin de l'autre. Ce qui explique qu'on puisse aimer son ennemi, car on n'a pas besoin qu'il soit aimable pour l'aimer. On n'a pas besoin de le désirer, on n'a pas besoin d'être passionnément éperdu de lui pour l'aimer. On peut prendre soin de quelqu'un parce que c'est un bien absolu. Et c'est cela qui, à mon avis, est un gage de liberté pour ceux qui sont au bénéfice de notre amour. Et je pense par exemple à nos enfants, notamment lorsqu'ils nous énervent, lorsqu'ils nous agacent, lorsqu'ils nous déçoivent aussi. Eh bien, la responsabilité parentale, c'est de continuer à les aimer, c'est-à-dire de continuer à leur prodiguer, bien sûr, le gîte et le couvert, mais aussi de l'affection, de la reconnaissance, et de les autoriser encore à pouvoir peut-être même faire certaines bêtises. Mais le fait qu'ils se sentent autorisés, c'est ce qui leur permettra de pouvoir faire des expériences dont ils pourront tenir compte ensuite pour se lancer dans l'aventure de la vie. Quelqu'un qui n'aurait jamais rien essayé est quelqu'un qui sera toujours effrayé par ce qui lui arrive. Et donc, on peut dire que l'amour est une sorte de capital dans lequel on peut puiser lorsque nous sommes face à des difficultés.
Ne vous reconnaissez-vous pas quand même qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas puiser dans un capital qu'ils n'ont jamais eu ?
Exactement. Et c'est tout le sens de ce que les psychiatres, par exemple, appellent la résilience. On pourrait très bien utiliser le terme de résurrection. Et il me semble que les textes bibliques sont une sorte de capital auxiliaire. C'est-à-dire que l'idée est la suivante. On a un capital dans lequel on peut puiser parce que on a été aimé et reconnu dans notre jeunesse, on a accompli certaines choses, et donc on sait qu'on est un être capable. Et quand cela n'a pas existé, et par exemple parce qu'on a été humilié dans notre enfance, les textes bibliques nous offrent des récits de réussite, d'accomplissement, de situations qui s'améliorent, dans lesquelles nous pouvons puiser. Et on pourrait dire que les textes bibliques constituent une mémoire auxiliaire que nous pouvons nous approprier. Et c'est tout le sens de ces textes du Premier Testament, par exemple.
Votre réponse me convient pas tout à fait, mais c'est quand même un début de réponse.
Très bien.
J'ai le sentiment que vous réduisez l'amour à trop peu de choses. En me disant « prendre soin », pour moi, c'est pas suffisant comme définition.
Oui, mais alors on pourrait après allonger en disant
ce sera une autre fois, «
prendre
peut-être.
Soin de manière inconditionnelle », par exemple. C'est ce que je laissais entrevoir. Mais il me semble qu'il y aurait une sorte d'écueil, ce serait de considérer qu'il y a une sorte d'absorption de l'autre dans l'amour. Ce que j'entends parfois dans le sentiment amoureux. Eh bien justement, l'altérité, c'est de pouvoir aussi laisser l'autre à distance, sans l'accaparer. Et l'amour, au sens biblique du terme, permet cela. Peut-être qu'on pourrait le dire avec ce que disait le rabbin Marc-Alain Ouachnine en parlant de l'éloge de la caresse. Vous voyez, c'est le fait de prendre soin de l'autre en le respectant et surtout en ne le rendant pas dépendant de nous. Est-ce que c'est mieux ça ?
C'est mieux, à réfléchir. Bah, j'attends bien votre prochain livre, alors, sur ce thème.
Très bien, je prends commande.
Dans votre dernier chapitre, parce que nous y arrivons, vous évoquez une liberté dont le modèle serait Jésus, est Jésus, poète de la liberté, dites-vous. Mais le risque, et vous le mentionnez très rapidement, est de réagir aux événements en se demandant ce que Jésus aurait fait à ma place. Alors comment échapper à ce piège, James Woody ?
Eh bien déjà, en n'ayant pas comme mantra personnel, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ? Voilà, ça je pense que c'est un piège, parce que Jésus n'a pas été confronté aux situations que nous vivons. Je l'évoque, on ne lui a pas demandé de se positionner par rapport aux chaussettes hautes, chaussettes basses, aux thermonucléaires, par rapport au Coca Light ou Regular, etc. Bon. Donc, cela signifie qu'il faut penser à nouveau frais chaque situation, parce que nous sommes tous porteurs d'une singularité, c'est une phrase un peu bateau, mais le fait est que même pour deux frères, les conditions de vie ne sont pas les mêmes, parce que leurs liens aux parents seront différents. Et donc, il en découle que chaque chose qui nous arrive nécessite une réponse personnelle de notre part. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir quelles ont été les intuitions de Jésus pour essayer de retrouver des perspectives et à partir de là, tracer notre propre route. C'est-à-dire avoir un horizon qui était celui de Jésus, mais ensuite, les réponses précises, les chemins précis, ce seront nous qui les déterminerons. Et la liberté, c'est cela. C'est de pouvoir avoir du lien, et la foi dit ce lien que nous avons avec un horizon, avec un idéal, avec un absolu. Mais ensuite, nous sommes créatifs, et là aussi je parle de la créativité, c'est-à-dire que la vie nous offre une palette de couleurs dans laquelle nous allons puiser les nuances qui nous semblent les plus appropriées pour le temps présent.
Merci James Woody pour ce vent de liberté que vous nous avez apporté. Nous avons évoqué pendant cette émission votre deuxième livre, « Vivre la liberté », publié aux éditions du Cerf. Et revenez quand vous voulez, pasteur James Woody.
À très bientôt. Au revoir.